Nous retrouvons dans la Bible, c'est celle de Jonas. Combien d'enfants à l'école du dimanche ont entendu les oreilles toutes grandes ouvertes ce récit étonnant d'un homme qui a vécu dans le ventre d'un grand poisson? Nous aimons cette histoire et pourtant, malgré tout ce que nous avons entendu concernant ce récit, peu de gens comprennent vraiment ce que Dieu veut enseigner à travers celui-ci. Nous entendons dire que le christianisme est par-dessus tout une religion de grâce et cela est indiscutable. Nous chantons des cantiques qui parlent de la grâce. Plusieurs églises du côté anglophone, dans leur nom d'église, portent le mot « grâce ». Mais si quelqu'un nous demandait, après le culte, si nous croyons dans la grâce de Dieu, nous répondrions « oui ». Mais lorsque nous quittons l'église pour retourner dans nos maisons ou sur nos lieux de travail, nous devons avouer que durant la semaine, nous utilisons très rarement le mot « grâce ». Il y a quelques années, Philip Yancey a écrit un livre qui a connu un succès phénoménal, dont le titre est « Qu'y a-t-il de si étonnant avec la grâce de Dieu? » Dans ce livre, il mentionne que la grâce est l'un des derniers grands mots qui a conservé une partie de sa signification originale, un don gratuit et non mérité. À chaque jour, nous rendons grâce à Dieu pour la nourriture que nous allons prendre. Yancey souligne qu'une partie de notre problème réside dans la nature même de la grâce. La grâce est difficile à accepter, difficile à croire et difficile à recevoir. Nous sommes tous très sceptiques lorsque nous en recevons un appel d'un représentant nous disant « Je n'essaye pas de vous vendre quoi que ce soit, je veux juste vous offrir un voyage gratuit à Hawaï. » Automatiquement, nous disons qu'il y a un piège, parce qu'on nous a enseigné qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Yancey continue en disant que la grâce nous choque dans ce qu'elle nous offre. D'abord, elle ne vient pas de ce monde, elle vient d'en haut. Elle nous fait peur avec l'effet qu'elle produit chez les pécheurs. La grâce nous enseigne que Dieu fait pour les autres ce que nous ne ferions jamais, jamais pour eux. Et pour les gens qui ne saisissent pas qu'est-ce que la grâce de Dieu, quand on voit ce que la grâce, l'effet de la grâce de Dieu chez un pécheur qui s'est repenti et converti, souvent, les gens du monde le traitent de fou. Il est devenu fou. Ouais. C'est bien, hein? Il y en a qui sont fous du sport, fous du foot, mais je pense que par-dessus tout, il est vraiment préférable d'être fou de Dieu. Est-ce que vous êtes amen à ça? Ça veut dire que finalement, Dieu occupe nos pensées. Nous accepterions à la limite de sauver les moins pires, mais Dieu commence d'abord à manifester sa grâce envers les pires. Il les prend là où ils sont pour ensuite les élever à la stature parfaite de Jésus-Christ. La grâce est un cadeau qui coûte tout à celui qui l'accorde et rien à celui qui le reçoit. De plus, elle est donnée à ceux qui ne la méritent pas. Et en y réfléchissant bien, Dieu est plus gracieux que moi. Vous savez comment je le sais? Parce que non seulement il sauve des gens que je ne sauverais pas si j'étais Dieu, mais il bénit des gens que je ne bénirais pas si j'étais Dieu. Et il utiliserait des gens que je n'utiliserais jamais si j'étais Dieu. Rendons grâce à Dieu que je ne sois pas Dieu. Hein? Ouais. Voilà pourquoi je suis content qu'il soit Dieu et que je ne sois pas. Il est écrit dans Exode, chapitre 34, verset 6, qu'il est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, ça veut dire patient, riche en bonté et en fidélité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les pécheurs. La doctrine de la grâce peut être l'enseignement le plus difficile à accepter dans la Bible. Ce n'est pas le fait que la grâce soit difficile à comprendre, puisque nous savons ce que le mot « grâce » veut dire. Notre problème se situe plutôt au niveau de son application. La grâce nous demande d'accepter deux choses que nous acceptons difficilement. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous sauver nous-mêmes. Et deuxièmement, si Dieu ne nous avait pas sauvés, nous serions toujours perdus. Rien ne résume plus clairement la signification du mot « grâce » que la dernière partie du verset 9, au chapitre 2 de Jonas. Ceux qui ont leur Bible, regardez. Cette affirmation nous saisit en même temps et nous fait rire parce qu'elle sort de la bouche du pire missionnaire du monde qui s'appelle Jonas. Regardez ce qu'il dit. « Le salut vient de l'Éternel. » Le salut vient de l'Éternel. C'est bien ce que vous lisez dans vos Bibles aussi, oui. Chapitre 2, verset 9. Ah, pardon, ça dépend de la version que vous avez. Chapitre 2, verset 10, hein? Verset 10 que vous avez? Oui. Le salut vient de l'Éternel. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors que nous commençons notre voyage avec Jonas, il est bien de clarifier un point. Jonas n'est pas le héros de ce livre, c'est Dieu qui l'est. Au début, il fuit Dieu, ensuite il prie Dieu, puis il prêche Dieu, et finalement, il finit par discuter avec Dieu. Le personnage principal de ce livre, c'est Dieu. Son nom y est mentionné à 38 reprises. Ce livre parle de Dieu, de la grandeur de son cœur envers les fils et les fils prodigues, les fils, pardon, et les filles prodigues qui le fuient. Dieu n'a jamais laissé tomber Jonas, que ce soit lorsqu'il fuyait ou lorsqu'il était à l'ombre, assis à l'ombre de ce ricin, et peu importe ce que nous vivons dans nos vies, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Et je pense que ça, c'est... Je ne sais pas, je l'ai dit peut-être dans un français courant, mais très courant, mais c'est quelque chose à se rappeler constamment, gravé dans notre cœur. Seigneur, j'ai la conviction que jamais tu vas me laisser tomber. Jamais, jamais tu vas me laisser tomber. Même, Seigneur, si moi je te laisse tomber, jamais tu vas me laisser tomber. Jamais il va vous laisser tomber. Quel est l'enseignement à retenir pour nous tous ici? C'est effrayant jusqu'à quel point nous ressemblons à Jonas, frères et sœurs. Jonas, ce n'est pas un cas unique. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu au monde pour nous briser le moule après. On ressemble à Jonas. Il y a peu de Jonas en chacun de nous et beaucoup de Jonas chez la plupart d'entre nous. Voilà pourquoi nous avons besoin non seulement de la grâce de Dieu, mais de beaucoup de grâce de Dieu. Et en gardant cela en mémoire comme introduction, voici certaines choses à retenir du livre de Jonas. Donc, pendant que vous allez regarder votre livre, on va regarder ensemble le livre du premier chapitre, simplement vous faire remarquer qu'il va y avoir 4 parties à ce message, donc un chapitre par semaine, Dieu voulant. Et qu'aujourd'hui, on va regarder le premier chapitre de Jonas. Pardon. D'abord, c'est une histoire vraie. À la remise en question de l'historicité du récit de Jonas par certains critiques et par certains sceptiques, ce récit que nous avons sous nos yeux est un fait vécu par quelqu'un qui s'appelait Jonas, quelqu'un qui a vraiment existé, qui a vraiment fui vers Tarsis, qui a vraiment été avalé par un grand poisson. Et pas une baleine, hein? Vous connaissez la chanson « Jonas dans la baleine » disait « Je voudrais bien ouais, ». Vous savez. Ben, et c'est normal que les gens du monde se moquent de lui parce qu'il n'y a pas une baleine qui serait capable d'avaler un homme. La baleine, elle a quelque chose pour avaler les petits poissons, les petits menets, mais pas pour avaler un homme. Et la Bible ne parle pas d'une baleine ici, elle parle d'un grand poisson. Peut-être un poisson que Dieu a créé exprès pour Jonas. Et après, Dieu en a eu terminé avec ce poisson. La Bible ne nous parle pas de baleine, elle nous parle d'un grand poisson. Et Jonas a été avalé par ce grand poisson. Il a réellement vécu 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et la Bible nous dit ensuite qu'il a été vomi par le poisson sur la terre. Et nous pouvons dater le livre de Jonas vers 765 avant Jésus-Christ, pendant la période du règne du roi Jéroboam II. Et Jésus attestera plus tard dans Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42, non seulement le caractère historique de Jonas, mais aussi de l'épisode du grand poisson et de sa prédication aux habitants de Ninive. Ce que je trouve de formidable avec le Seigneur Jésus, hein? Il est venu au bon moment. Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, savait que sa parole serait contestée. Il savait qu'à un moment donné, dans la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire à partir du 20e siècle surtout, que sa parole serait remise en question dans beaucoup de domaines. Et Jésus, à travers les évangiles, il va venir confirmer l'authenticité de ce que les critiques aujourd'hui remettent en question dans l'Ancien Testament. La véracité d'Adam et Ève. Il dit, il n'en était pas ainsi au commencement lorsque Dieu créa l'homme et la femme. Ensuite de ça, il parle du déluge de Noé. Ensuite de ça, il parle de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et il ramène des choses qui sont contestées aujourd'hui. Eh bien, il soutient l'authenticité de ça. Et non seulement Jésus soutient l'authenticité, mais Dieu, dans sa grâce, aussi a permis aux archéologues au 20e siècle et encore maintenant de découvrir des choses que la Bible parle depuis plus de 4000 ans. Jonas vient de Gath-Hépher, un petit village dans la partie nord d'Israël, plus précisément à la région de Galilée, non loin du village de Nazareth où Jésus a grandi. Donc, c'est quelqu'un qui vient de la campagne, c'est probablement quelqu'un qui provient d'une famille pauvre. Et le livre contient 4 chapitres, 48 versets et un peu plus de 1300 mots. C'est un très petit livre. Si vous prenez le temps de le lire sans réfléchir, ben ça ne vous prend pas 15 minutes pour lire le livre. C'est vraiment un livre qui est merveilleusement bien équilibré, interpellant et profond. Il nous révèle que ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite, qu'il vive. Nous savons jusqu'à quel point le Seigneur peut être créatif lorsqu'il veut nous ramener là où il veut que nous soyons. Et ça, c'est une des premières leçons à retenir de la part concernant Jonas. Dieu a dit à Jonas, tu t'en vas à l'est. Jonas a dit, moi, je m'en vais à l'ouest. Eh bien, on ne joue pas avec les baskets du Seigneur. Hein? Le Seigneur dit, tu vas venir à l'est, je vais prendre des moyens pour que tu viennes à l'est. Ouais, parce que j'ai une mission pour toi, parce que j'ai un appel pour toi. Et frères et sœurs, quand on est né de nouveau, c'est la même chose pour nous. Si on prend la direction à l'ouest alors que Dieu nous demande d'aller à l'est, vous pouvez être certain que si vous appartenez au Seigneur, Dieu va un plan pour vous ramener. Vous ramener là où il veut que vous ramenez parce qu'il veut se glorifier à travers vous, comme il l'a fait à travers Jonas. Jonas, c'est le plus grand réveil, on peut dire que c'est l'un des plus grands réveils que la Terre a vécu. Et Dieu avait quelque chose de bien particulier pour Jonas. Et Jonas a voulu se dérober à cet appel de Dieu. Dieu a pris les grands moyens pour faire en sorte que Jonas soit là où il le veut. Et c'est la même chose pour nous. Pour nous aider à comprendre, voici un aperçu très simple du déroulement de cette histoire. Au chapitre 1, c'est la désobéissance et la fuite de Jonas. Au chapitre 2, c'est Jonas et le grand poisson, où là, on voit Jonas qui commence à prier. Au chapitre 3, c'est Jonas qui parle de la part de Dieu, c'est-à-dire ce grand réveil qui arrive dans l'histoire. Et au chapitre 4, c'est Jonas qui discute avec Dieu, qui apprend à connaître la bonté de Dieu. Extraordinaire. Avez-vous déjà discuté avec Dieu? C'est fantastique ce que Dieu peut vous révéler, hein? Je ne sais pas dans votre lit durant la nuit si vous vous réveillez pour discuter avec Dieu, mais c'est extraordinaire toutes les révélations que Dieu vous donne. Et Jonas, eh bien, au chapitre 4, il va voir Dieu comme il n'a jamais vu. Comme il n'a jamais vu parce qu'il a pris le temps de discuter avec Dieu. Il n'a pas juste pris le temps de déballer ce qu'il avait à lui dire, il a pris le temps aussi d'écouter Dieu. Il a découvert la bonté de Dieu, il a découvert l'amour de Dieu, il a découvert la grâce de Dieu. Ce livre ne contient qu'une seule prophétie, c'est vraiment un livre sur Jonas et sur Dieu. Nous savons, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus a particulièrement aimé cette histoire parce que Jonas est le seul prophète mineur qu'il mentionne dans tous les évangiles. L'histoire commence ainsi, versets 1 et 2, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Est-ce que ça vous rappelle pas un verset, ça, dans le livre de Genèse? Chapitre 18. Voilà. Ouais. Les cris sont montés jusqu'à moi. Il a envoyé deux anges. Et le Seigneur dit exactement la même chose. La méchanceté est montée jusqu'à moi. N'est-ce pas incroyable comment une seule phrase peut parfois changer votre vie? Vous pouvez être en train de conduire sur l'autoroute et recevoir un appel de Dieu qui va changer votre vie à tout jamais, peu importe que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise. Vous pouvez voir votre vie être transformée suite à un seul appel téléphonique. C'est ce qui arrivait à Jonas, c'est lorsque Dieu l'a appelé et qu'il lui a dit ces cinq petits mots, « Lève-toi, va à Ninive. » Dieu ne lui a pas dit « Va leur raconter jusqu'à quel point je les aime et le plan merveilleux que j'ai pour leur vie. » Non, il dit à Jonas, « Crie contre elle, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » En d'autres mots, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Va leur dire que le moment du jugement est arrivé. Lorsque Dieu dit que les habitants de la ville étaient méchants, ils ne plaisantaient pas. Ninive était la capitale de l'Assyrie, l'empire le plus puissant du monde à l'époque de Jonas. La réputation des Assyriens concernant le degré de cruauté qu'ils pratiquaient était connue de tous les peuples. Lorsqu'ils s'emparaient d'une ville ou d'un pays, ils commettaient des atrocités difficilement soutenables. Ils écorchaient les gens vivants. Il les décapitait, il les mutilait, il leur arrachait la langue, il faisait des pyramides avec leur crâne, il perçait leur menton, puis ils inséraient une corde à travers le trou qu'ils venaient de faire, et il les forçait à vivre attachés l'un à l'autre, comme des chiens dans un chenil. Les documents découverts par les archéologues racontent que cette cruauté qu'ils pratiquaient était considérée pour eux comme un signe de courage et de puissance. Ça vous fait pas penser à une petite armée, ça, dans les années 39 à 45, qui avait la même mentalité que les Assyriens? Qui se pensaient supérieurs aux autres et qui se glorifiaient d'assassiner, de faire disparaître un peuple. Les Assyriens ont su se reproduire à travers les siècles. Hein. On pense aux nazis, hein. On pense au nazisme. De plus, les Assyriens ne voulaient rien savoir des Juifs et les Juifs détestaient les Assyriens pour leur cruauté sanguinaire, pour leur idolâtrie et pour leur arrogance. Pour un Juif se faire dire par Dieu d'aller prêcher à Ninive, frères et sœurs, c'était la pire chose à lui demander, tellement ça le répugnait. Et pour Jonas, les habitants de Ninive pouvaient bien aller en enfer. S'il avait pu donner un ordre à Dieu, ce Jonas, il lui aurait dit, « Seigneur, appuie sur le bouton, ouvre la trappe, laisse-les tomber dans la fosse. Ils ne méritent que d'aller en enfer. » C'est ce que Jonas ressentait pour Ninive. Frères et sœurs, la pensée de Jonas, elle n'est pas morte avec Jonas. Hein? Aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui regardent le monde, qui se disent, « Ils peuvent bien tous aller en enfer. Hein? » Moi, j'en ai rien à signer de ce monde-là. Seigneur, punis-les comme il les mérite. Hein? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas saisi encore qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. parce qu'on n'a pas encore, qu'on n'est pas encore convaincu que Dieu aime tout le monde. Ouais. Dieu ne voulait pas juste sauver son peuple. Dieu veut sauver tous les peuples de la terre. Dieu ne veut pas garder uniquement les gens qui sont dans l'Église. Dieu veut ajouter jour après jour des gens dans son Église. Ouais. La race de Jonas, elle n'est pas morte quand Jonas est morte, frères et sœurs. À quoi peut-on comparer Ninive aujourd'hui? Ninive, c'est tout ce que vous appelez, c'est tout ce qui vous appelle à sortir de votre zone de confort. Ninive, c'est l'endroit où Dieu vous appelle là où vous ne voulez pas aller. Ninive, vous y trouvez des gens qui vous ont profondément blessé. Et Dieu dit, lève-toi, va leur annoncer mon message, car dans ma grâce, je veux les sauver. Ninive constitue un danger. Ninive, nous rend mal à l'aise. Ninive, c'est tout ce que vous détestez, mais que Dieu aime profondément. Qu'allez-vous faire lorsque Dieu vous dira, frères et sœurs, lève-toi, va à Ninive, en sachant que vous détestez ces gens? Vous avez besoin d'y penser parce que tôt ou tard, c'est ce que Dieu va vous dire. Lorsque Dieu a dit, lève-toi, Jonas, va à Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, nous aurions dû nous attendre à lire au verset suivant, Jonas se leva et alla à Ninive. N'est-ce pas? C'est vrai. La logique, Dieu te donne un ordre, tu obéis à l'ordre de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit au verset 3 que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, qu'il descendit à Jaffa, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya son billet. Ça, je trouve ça intéressant que la parole, elle nous dise qu'il a payé son billet. Je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel? Est-ce qu'un gars donne de l'argent pour s'acheter un billet pour fuir Dieu? Mais il y a un bon enseignement là-dedans. On n'aura pas le temps d'en regarder ça ce matin, mais rapidement, hein? Frères et sœurs, on trouve toujours de l'argent pour faire ce qu'on veut. Hein? On trouve toujours de l'argent pour faire ce qu'on aime. On serait même prêt à emprunter de l'argent, à s'endetter pour faire ce qui règne dans notre cœur. Je vais m'arrêter là pour ça. Il a trouvé un navire qui allait à Tarsis, il a payé son billet, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je vais vous montrer jusqu'à quel point. Je vais vous donner un petit tableau du parcours de Jonas. Hein. C'est un petit peu lourd pour le début parce qu'on regarde un peu l'historique, mais je vais vous donner. Ninive se trouvait à 800 km au nord de l'endroit où se trouvait Jonas. C'était une ville importante située près des rives du Tigre. Aujourd'hui, si on nous demandait de situer Ninive, nous dirions qu'elle se trouve en Irak, à 483 km au nord de Bagdad. Les archéologues ont découvert les ruines de l'ancienne ville de Ninive, juste à l'extérieur de la ville de Mossoul, en Irak. Tarsis se trouvait à environ 3200 km de l'Espagne. Nous avons donc un écart de 2500 km entre l'appel de Dieu et le désir de Jonas. Dieu dit à Jonas, je le répète, va à l'ouest. Jonas répond, va à l'est. Jonas répond, non, je vais aller à l'ouest. Si vous regardez l'action qui se déroule dans le chapitre 1, frères et sœurs, vous pouvez voir que Jonas est descendu 4 fois. Il est descendu à Jaffa, au verset 3. Il est descendu à Tarsis, au verset 4. Il est descendu dans la mer, au verset 15. Et il est descendu dans le ventre d'un grand poisson, au verset 17, ou au chapitre 2-1, dans certaines versions. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. Ça nous rappelle ce qui arrive lorsque nous désobéissons à l'appel de Dieu. À chaque fois que vous fuyez loin de Dieu, vous ne progressez jamais, vous descendez toujours plus bas au niveau spirituel. Pourquoi Jonas ne voulait-il pas aller à Ninive et pourquoi fuyait-il? Il ne comprenait pas que Dieu puisse se préoccuper des gens de Ninive. Il ne voulait pas qu'ils se repentent et il n'acceptait pas que Dieu puisse aimer des gens aussi méchants qui méritaient d'être jetés en enfer. Frères et sœurs, sans porter un esprit de jugement sur qui que ce soit, n'est-il pas possible que ce qui ne nous pousse pas à rendre témoignage de la personne de Jésus-Christ, c'est qu'on ne veut pas que les gens se repentent? C'est qu'on n'est pas convaincu que Dieu les aime autant que nous? Ce qui nous empêche de l'évangéliser, est-il possible que dans notre fort intérieur, on se dise, mais qu'ils tirent leur plan? Qu'ils fassent comme moi, qu'ils soient à la bonne place quand l'évangile passera? Mais ça, c'est mal comprendre la grâce de Dieu, frères et sœurs. Dieu aime tout le monde. Et Dieu n'a pas choisi de prendre des anges pour prêcher l'Évangile. Il vous a choisi. Et ça, c'est votre grande responsabilité. Et peu importe que vous soyez convaincu d'entrer au ciel, ça, c'est quelque chose qu'on va avoir à répondre à Dieu. Qu'est-ce qu'on a refait avec les perles que Dieu nous a données? Qu'est-ce qu'on a refait avec le message qui délivre les gens de l'esclavage dans lequel ils baignent aujourd'hui? Il y a des gens qui se suicident à tour de bras dans le monde. Il y a des gens qui sont découragés. Il est impossible de traverser ce monde sans Dieu. Il est impossible. On a une conviction. Ouais. Quelle grâce Dieu vous a fait. On est 8 enfants chez moi. Je me demande souvent, pourquoi, Seigneur, parmi les 8, moi qui étais le pire, pourquoi moi j'ai entendu l'Évangile? Pourquoi moi j'ai accepté l'Évangile, Seigneur? Et je termine toujours en disant, Seigneur, pourquoi tu m'aimes autant, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'aimes autant, Seigneur? J'ai une juste réalité de ce qu'est l'enfer, et je sais où mon frère, ma sœur et mes frères s'en vont. Et je me dis, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi tu m'as fait cette grâce, Seigneur? Jonas n'avait pas compris. C'est à travers sa désobéissance que Dieu va aller chercher. C'est à travers sa désobéissance que Dieu va lui montrer qu'il est gracieux. Parce que Dieu aurait pu effacer Jonas de la planète. Hein? Il aurait dit à Jonas, tu ne me feras pas ce coup-là deux fois. Hein? Je vais en choisir un autre. Dieu avait un plan pour Jonas et il a travaillé dans la vie de Jonas en provoquant des choses pour que Jonas comprenne que Dieu les aime, même tous, et qu'il veut que tous parviennent au salut. Que le désir de Dieu, c'est pas que le méchant meure, mais qu'il soit sauvé. Frères et sœurs, est-ce que c'est une conviction qu'on a dans notre cœur ce matin? Dieu n'est pas en train de nous demander de parcourir les rues, d'aller crier un message de jugement chez les gens, mais au moins de leur transmettre la vérité. Dieu déteste le péché, il aime le pécheur. Et Dieu veut que tous parviennent au salut. Le problème de Jonas, c'était pas Ninive. Le problème de Jonas, c'était la grâce de Dieu, frères et sœurs. Il n'avait pas compris c'est quoi la grâce de Dieu. Jonas va donc décider de fuir loin de Dieu. Il va se diriger vers Jaffa, où en arrivant, il va trouver un bateau qui se rendait exactement là où il voulait aller, à Tarsis. Quel chanceux! N'est-ce pas là une coïncidence incroyable? Frères et sœurs, lorsque quelqu'un décide de désobéir à Dieu, non seulement il trouvera toujours un bateau pour l'amener à Tarsis, mais il trouvera toujours un bateau qui aura de la place, qui restera une place pour le prendre à son bord. Chers amis, lorsque nous décidons de fuir le Seigneur, Satan est heureux de nous fournir un moyen de le fuir. Jonas a donc trouvé un navire et le moyen de payer son billet. Et en réfléchissant à cela, j'ai pensé aux excuses que Jonas aurait pu donner pour fuir loin du Seigneur. Il aurait pu dire, il est possible aussi que Dieu m'appelle à Tarsis. Les gens, eux aussi, ont besoin à Tarsis du Seigneur. J'ai prié à ce sujet, je pense que c'est à Tarsis qui est ma place. J'ai la paix dans mon cœur à propos de cette décision. Ce n'est sûrement pas le fruit du hasard si ce bateau est là où je suis. Ça doit être la volonté de Dieu qui me prenne. J'aime Ninive, mais je suis certain que je ne suis pas la bonne personne pour parler à ces gens. Frères et sœurs, nous pouvons toujours trouver une excuse à chaque fois que nous voulons désobéir au Seigneur. Il est facile de justifier nos mauvais choix en trouvant toutes sortes d'excuses et à se convaincre que nous accomplissons là la volonté de Dieu. En réfléchissant à cette histoire de Jonas, une question me vient à l'esprit. Jusqu'où Dieu peut nous laisser aller dans le péché? Je ne pense pas que quelqu'un puisse connaître parfaitement la réponse, mais il semblerait que parfois Dieu n'intervienne pas toujours rapidement et qu'il puisse nous laisser aller très loin. Pourquoi n'intervient-il pas plus tôt? Ma réponse est qu'une partie de son jugement ne consiste pas toujours à nous arrêter. Dans le cas de Jonas, il aurait pu faire en sorte que le navire se rende dans un autre port. Il aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas de place à bord du bateau pour lui. Parfois, le jugement de Dieu consiste simplement à faire en sorte de nous laisser continuer à nous vautrer dans le péché afin que nous puissions un jour faire face aux conséquences de notre propre désobéissance. C'est là la sévère miséricorde de notre Dieu. Nous n'avons qu'à penser à Samson et nous n'avons qu'à penser à David. Si nous baignons dans le péché et que Dieu n'intervient pas de façon drastique, nous pouvons nous inquiéter et nous poser la question si nous lui appartenons vraiment. Paul dit en parlant de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devraient pas faire. Romains chapitre 1, verset 28. Lorsqu'une société décide qu'elle n'a pas besoin de Dieu, plus souvent qu'autrement, la réponse de Dieu n'est pas toujours de faire entendre le tonnerre et l'éclair. Dieu dit, je vous avertis à plusieurs reprises, si vous voulez sauter la clôture, si c'est vraiment ce que vous voulez, je ne vous empêcherai pas et je ne vous arrêterai pas. Cependant, soyez certains que ma patience a des limites. Chers amis, lorsque nous pensons au début de la triste histoire de Jonas, souvenons-nous que nous pouvons courir et fuir loin de Dieu, mais que nous ne pouvons pas nous cacher de lui. Pensez à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pensez à Adam et Ève qui essayaient de se cacher de Dieu. Et Dieu qui connaît toutes choses, qui descend, puis il leur demande « Où es-tu? » Alors que Dieu savait très bien où ils étaient. La question, c'était aussi « Où en êtes-vous? » Où en êtes-vous dans ma relation avec moi? Et Jésus dit, on est nu. On est nu. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Moi, je t'ai jamais enseigné ça. Hein? Et c'est le péché qui leur a enseigné qu'il était nu. Ouais. Dieu était avec Jonas à chaque étape de son parcours, et malgré le fait que Jonas ait essayé de quitter le Seigneur ne l'a jamais quitté. Si Dieu ne nous aimait pas, il nous laisserait tout jamais nous vautrer dans notre péché. À première vue, il semblerait que Jonas s'en soit bien tiré. Il a fui loin de Dieu et maintenant il vogue allègrement sur un bateau vers Tarsis. Frères et sœurs, il est tellement heureux, il est tellement content, il est tellement sûr de faire la volonté de Dieu, de voir que son plan a fonctionné à la perfection. Il est tellement heureux. Regardez verset 5, qu'est-ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Il est descendu au fond de son navire, du navire pour se coucher et s'endormir profondément. Quelle fausse paix pour Jonas. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Nous verrons la prochaine fois que Dieu se prépare à intervenir dans la vie de Jonas, car il y a tellement de choses à lui apprendre le concernant. Il y a au moins deux choses à retenir ici ce matin. Chaque fois, chaque pas que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu est toujours un pas qui nous tire vers le bas. On n'a jamais vu quelqu'un qui désobéit à Dieu progresser dans sa foi. Au contraire, vous ne faites que descendre encore et toujours un peu plus bas, descendre à Jaffa, descendre dans le bateau, descendre dans la mer et descendre dans le ventre du grand poisson. Il est facile de descendre, facile de quitter le chemin étroit, facile de tomber dans le péché, mais le chemin du retour est souvent très difficile et très douloureux. Deuxièmement, un deuxième enseignement ici, Satan peut utiliser les circonstances de la vie, tout comme Dieu le fait, ou lui aussi pour vous attirer à lui. Satan a ses navires et il a toujours de la place sur ses navires. Ses navires vont toujours là où nous voulons aller quand nous fuyons Dieu. Et à travers certaines circonstances, il peut nous faire paraître la désobéissance comme étant une occasion favorable à saisir. Alors qu'il se prépare à faire une sieste, Jonas a pu penser que les choses allaient tellement bien pour lui que ça devait être la volonté de Dieu. Mais s'il pensait cela, il avait tort, le Seigneur lui avait déjà, lui, fait clairement connaître sa volonté. Frères et sœurs, aucune circonstance nous paraissant favorable ne peut venir de Dieu s'il ne vise pas à nous amener à désobéir, si elle vise, pardon, à nous amener à désobéir à Dieu, alors que Dieu dit le contraire dans sa parole. Et au plus profond de lui-même, Jonas, frères et sœurs, il connaissait la volonté de Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'est de ne pas lui obéir, parce qu'il avait des préjugés. Il ne comprenait pas, il n'acceptait pas, finalement, la grâce de Dieu. Et il nous arrive, après des années dans la vie chrétienne, qu'on n'accepte pas nécessairement la grâce de Dieu. Frères et sœurs, Dieu peut être à l'œuvre, même au milieu de notre désobéissance, pour nous amener ou nous ramener à lui. Parfois, il nous laisse descendre très loin de telle sorte que lorsque nous voyons finalement notre péché pour ce qu'il est, nous sommes prêts à retourner vers lui. Entre-temps, la désobéissance de Jonas peut nous sembler ne pas avoir de mauvaises conséquences, mais voilà, connaissant déjà la suite de l'histoire, nous pourrions dire à Jonas ce matin, « Jonas, profite du bon temps. Il te reste peu de temps parce qu'il y a un grand poisson qui est en route pour venir te chercher. » Ne nous y trompons pas, on ne se moque pas de Dieu. Jonas est sur le point de vivre des moments très difficiles. Souvent, les gens pensent que si Dieu aime les pécheurs, il approuve par conséquent leur péché. Quelle erreur! Dieu est amour, mais il est capable d'aimer même celui qu'il désapprouve. Le directeur d'un centre de rééducation réputé pour son succès dans la transformation de jeunes délinquants en honorables citoyens dit un jour à l'un de ses jeunes résidents, « Jean, nous t'aimons, mais nous n'aimons pas ce que tu fais. » Par cette seule phrase, cet homme révélait le secret de sa réussite, savoir différencier le péché du pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Dieu nous aime, voilà le message central non seulement de ce livre de Jonas, mais de toute la Bible. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Son besoin le plus grand, c'est d'être aimé. Son besoin le plus grand, c'est d'être aimé. Vous êtes amen à ça? Dieu se révèle dans les Évangiles comme un Dieu qui aime sa créature. Il est plein de compassion et de miséricorde. Il s'intéresse à nous. C'est pas extraordinaire qu'il s'intéresse à vous? Que dans l'univers, on occupe la pensée de Dieu chacun, en tout temps. Il s'intéresse à nous. Il veut nous aider, nous consoler, nous pardonner, nous sauver. Il désire non seulement vivre une relation avec nous, mais il veut nous transmettre sa joie, sa paix et son amour. Il y a combien de gens dans le monde qui ont soif d'amour? Il y a combien de femmes qui se donnent à des hommes parce qu'elles ont soif d'amour? Il y a combien d'hommes qui se donnent à des femmes parce qu'ils ont soif d'amour? Au niveau de la drogue, hein, je trouve que c'est une bonne expression hein, qu'on utilise, l'enfer de la drogue. Et pourtant, au tout début, les gens, ils veulent fuir à la société en utilisant ce paradis artificiel qui est la drogue, et qui, lorsqu'ils sont dépendants, devient un enfer pour eux. L'enfer, cet enfer est tellement fort que la seule solution qu'ils trouvent, c'est de se suicider. Quand on a une relation étroite avec le Seigneur, jamais, jamais l'idée du suicide va nous venir à l'esprit. On peut être déprimé, on peut vivre des difficultés, mais jamais, parce que la main du Seigneur est toujours tendue pour nous lever. Si vous voulez avoir un encouragement, lisez les psaumes, parce que s'il y en a un qui était déprimé dans des moments de sa vie, c'est bien David. Hein? Ouais. C'est bien Élie aussi, hein, qui regrettait d'avoir vu le jour. Vous pensez à Job aussi, qu'est-ce qu'il avait fait de mal, Job. Il y en a d'autres, hein, mais c'était des enfants de Dieu. Et Dieu a toujours su aller les chercher au dernier moment, pour leur montrer que même dans des moments de déprime épouvantable, il était présent dans leur vie. Et ce matin, si vous vivez quelque chose de déprimant, si vous avez des difficultés, peu importe les difficultés, ayez la conviction que Dieu est présent dans votre vie, que rien qui échappe au regard de Dieu et que Dieu a déjà la solution pour vous sortir de votre déprime. Vous dites « Amen » à ça ce matin. Ouais. Frères et sœurs, regardez ce que Dieu dit à Isaïe. « Nous avons du prix à ses yeux. Ne crains rien. Ne crains pas. Je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as des prix. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. » Isaïe chapitre 43, verset 4. « Son grand amour est à l'origine... pour nous, est à l'origine de son sacrifice à la croix. » Frères et sœurs, Jésus n'est pas mort. Je vais le répéter deux fois. Jésus n'est pas mort à la croix pour que Dieu nous aime, mais parce que Dieu nous aime. Jésus n'est pas mort à la croix pour que Dieu nous aime, mais parce que Dieu vous aime. Voilà toute la différence. Et un peu plus loin, dans les Épîtres, on nous dit, bien, si on l'aime, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, Jésus n'est pas mort pour que Dieu nous aime, pardon, mais pour que nous l'aimions. Parce que Dieu nous aime. Seul Dieu peut étancher la soif intense d'amour qu'il a lui-même mis dans notre cœur. Nous ne pouvons donc pas nous attendre à grandir et à nous épanouir en Christ si nous ne croyons pas que Dieu nous aime. Frères et sœurs, en terminant ce message, comment manifestez-vous dans la réalité au quotidien de votre vie que vous avez compris sincèrement que Dieu vous aime? Comment? Facile de dire à quelqu'un, inquiète-toi pas, Dieu t'aime, tu ne seras pas tombé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on saisit ce que ça veut dire? Explique-moi ce que ça veut dire quand on dit Dieu m'aime. Quand on dit aux autres Dieu t'aime. Est-ce que des fois on saisit la réalité? La réalité de ce mot, l'amour de Dieu pour les perdus. Frères et sœurs, on est incapable d'avancer dans notre vie chrétienne si on ne donne pas une juste compréhension de la réalité de qui est Dieu. Si on ne comprend pas l'amour de Dieu, ce n'est pas clair pour nous. Si on ne comprend pas, on ne saisit pas la grâce de Dieu, ce n'est pas clair pour nous. La miséricorde, la bonté, la grandeur de Dieu, frères et sœurs, il est impossible de progresser dans notre vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce matin? Dieu m'aime. Frères et sœurs, on tomberait à genoux à tous les jours, au pied de notre lit, en pleurant. Et on dirait ce que je dis souvent, « Comment peux-tu m'aimer autant? Je suis ton enfant, je t'honore pas toujours. Je dégage pas la lumière que je devrais dégager. Comment peux-tu faire pour continuer à m'aimer, Seigneur? » Ben, il me dit comme Paul, « Ma grâce te suffit. » Voilà. Et là, je m'en vais avec ça. « Ma grâce te suffit. » Ça veut dire quoi? Je te traiterai jamais comme tu le mérites. Parce que s'il fallait que je te traite comme tu le mérites, tu t'en irais directement en enfer maintenant. Je raccourcirais tes jours pour t'envoyer en enfer. « Ma grâce te suffit, c'est tout ce dont tu as besoin. » Jonas va le saisir à un moment donné, ça. Jonas va se dire en lui-même, « Je ne suis pas mieux que les Assyriens, Seigneur. Hein? »
tu devrais me traiter comme les Assyriens. Hein. Merci, Seigneur, de m'avoir dévoilé ta grâce. Merci de m'avoir dévoilé ton amour. Hein. Merci de m'avoir dévoilé ta bonté, Seigneur. Merci. Hein. Ouais. C'est pourquoi ne permettons jamais à nos sentiments instables et capricieux de nous faire douter de cette glorieuse vérité de la parole de Dieu. Dieu vous aime. Et vous n'abuserez jamais de la grâce de Dieu, parce que Dieu a de la grâce à donner jour après jour. Il y a une portion de grâce pour vous à chaque jour. Nous verrons la prochaine fois que Jonas s'apprête à réaliser lui aussi cette vérité. Que nous puissions, ce matin, simplement, tout au long de la semaine, jusqu'au prochain message, Dieu voulant, eh bien, nous dire, Seigneur, donne-moi une plus grande compréhension de ton amour. Donne-moi une plus grande compréhension de ta grâce, afin que je puisse déverser, que je puisse manifester cet amour et cette grâce auprès des gens qui sont autour de moi, que tu places sur mon chemin. Amen.